Sylvia Ekstrom, bonjour.
Bonjour.
Au moment où tout le monde se passionne pour la planète rouge, avec beaucoup d'actualités cette semaine, vous n'avez pas peur de jouer les rabat-joie et vous nous dites non, nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs. Vous voulez nous faire redescendre sur Terre?
Absolument, je veux vous faire savourer notre magnifique planète, qui est la seule planète habitable du système solaire. Mars n'est pas habitable, donc on ne peut pas y vivre. On peut éventuellement y survivre un certain temps, qui reste à déterminer, grâce à des bulles d'habitabilité qu'il faut construire. Et évidemment, la taille de la bulle va dépendre du nombre de personnes et de la durée du séjour.
Pensez-vous qu'il y a trop de fantasmes autour de cette planète?
Oui, je pense qu'on la présente à tort comme une espèce de solution B, de planète B, parce que simplement c'est une planète rocheuse qui est relativement proche de nous, puisque c'est une de nos plus proches voisines. Et il y a une espèce de mythe que oui, il faut que l'humanité survive à une éventuelle catastrophe terrestre, et donc Mars serait une alternative. Mais Mars n'est pas habitable, c'est pas une alternative.
Des fantasmes, mais aussi beaucoup d'énergie, puisque des nations entières consacrent des budgets importants à la découverte de cette planète. Il existe aussi des réseaux d'influence, comme la fameuse Mars Society, qui fait la promotion des vols habités, mais aussi d'un projet de colonisation. Dangereux, selon vous?
Alors, l'exploration, c'est dans notre ADN, c'est impossible de passer à côté de ça. On va forcément essayer d'aller explorer cette planète, mais explorer et coloniser, c'est pas du tout la même chose. On parle vraiment de deux concepts complètement différents. Et autant l'exploration, je pense que bon, ben pourquoi pas. J'ai des restrictions à cause du risque de contamination de Mars par nos petites bactéries terrestres qui risquent de quand même effacer une des grandes quêtes qu'on a, qui est de savoir si la vie a pu émerger sur Mars, en y envoyant des êtres humains qu'on ne peut pas désinfecter comme une sonde robotique. Et bien évidemment, on risque de brouiller un peu les pistes. Ça, c'est un autre débat. En revanche, l'exploration, donc oui, c'est un énorme moteur de développement, d'innovation pour les grandes agences spatiales et les nations dont vous parlez. La colonisation, c'est vraiment complètement autre chose. Ça part du principe que l'être humain peut être dissocié de sa planète et de sa biosphère. Et dans notre livre, on essaie de montrer que ce n'est pas le cas. On est le résultat d'une évolution de millions d'années de vie biologique sur la planète Terre. Et tout notre système physiologique est fait pour les conditions de notre planète. Même si on élargit à des conditions assez extrêmes de notre planète, puisqu'on a des Esquimaux qui vivent dans les glaces et des Touaregs qui vivent dans les déserts de sable chaud. Néanmoins, on est issu de cette évolution. Et quand on s'en abstrait, quand on part dans l'espace, on a beaucoup de problèmes physiologiques déjà simplement.
Alors vous passez en revue dans ce livre toutes les difficultés liées à la découverte de la planète rouge et à son habitabilité, l'éloignement, le voyage, les radiations magnétiques, le froid. Quel est le critère le plus rédhibitoire selon vous ?
Je pense que c'est vraiment le facteur humain, c'est-à-dire autant psychologique que physiologique. La technique, on peut toujours se dire, oui, mais on est tellement malin, on va toujours trouver une solution technique. Oui, mais à certaines réalités physiologiques, c'est très difficile. Le voyage est extrêmement dangereux parce qu'on est en apesanteur, et dans l'apesanteur, nos os se déminéralisent, et donc on perd de la masse osseuse. Donc quand on arrive sur Mars, on est fragilisé. Et on arrive dans un état vraiment fragile avec des risques de fractures qui seraient totalement dramatiques dans un milieu totalement hostile où il n'y a personne pour nous aider à sortir d'une capsule. Comme on voit les retours d'astronautes de l'ISS après 6 mois, il faut une équipe entière pour extraire les astronautes de leur capsule, les aider à tenir debout parce qu'ils tiennent pas debout. Et si ça se passe sur Mars, eh ben ils seront tout seuls pour se débrouiller. Et ces problèmes physiologiques sont vraiment de loin pas négligeables. Et pour le moment, on n'a pas de solution à ce niveau-là.
Vous êtes astrophysicienne, vous avez attrapé le virus interstellaire au passage de la comète Hale-Bopp en 97. Comment vous êtes perçue dans la communauté scientifique parmi vos collègues?
J'en ai beaucoup qui me félicitent. Ceux qui sont peut-être pas d'accord me l'ont pas dit. Donc j'ai plutôt reçu des encouragements et des félicitations de gens qui trouvent que c'est bien d'enfin mettre un peu les choses à plat.
Sylvia Ekstrom, merci. Vous avez écrit avec Javier Nambola « Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs », préface de Michel Mayor. C'est aux éditions Favre. Merci à vous.